France Inter.
Bienvenue à tous. Au sommaire ce soir, nous serons à Roland-Garros dès le début du journal. La finale entre le numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner, et son dauphin espagnol Carlos Alcaraz. 3h30 de jeu, 2-7-1 en faveur de Sinner, et Alcaraz mène dans le 4e set. À la une également, Israël qui demande à son armée de ne pas laisser accoster le navire humanitaire. Parti de Sicile le 1er juin, le bateau est en train d'approcher de la bande de Gaza. Nous serons en direct de Jérusalem. En France, le constructeur automobile Renault va s'associer à la production de drones sur le sol ukrainien. Nous serons à Nice dans ce journal. Nice qui commence ce soir à accueillir les 130 chefs d'État et de gouvernement qui participent à la convention de l'ONU sur les océans. Des scientifiques qui ont fait quelques recommandations, et parmi ces chercheurs, notre invité dans ce journal, le président de l'IFREMER, François Houllier, en direct de Nice. Et puis le temps de demain, lundi, Céline Dacosta, ce sera calme pour commencer la semaine.
Oui, la journée sera largement ensoleillée, les températures en légère hausse.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Et nous partons donc à Roland-Garros, la finale homme qui tient toutes ses promesses entre le numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner, et l'Espagnol Carlos Alcaraz. Guillaume Batin, vous êtes en direct de Roland-Garros, sous le soleil de Paris, 3h30 de jeu époustouflant.
Époustouflant, absolument. C'est l'un des mots qui caractérise cette magnifique finale du tableau masculin entre le numéro 1 mondial et son dauphin, entre Yannick Sinner, l'Italien, qui n'a jamais remporté Roland-Garros et qui en rêve, et le tenant du titre, l'Espagnol Carlos Alcaraz, qui a eu un début de finale difficile puisqu'il s'est incliné deux fois dans les deux premières manches, 6-4 et au tie-break 7-6, mais bien encouragé par le public et sans doute grâce à un gros effort mental, il a réussi à revenir dans la partie en empochant la troisième manche 6-4. On est dans le quatrième set. Vous entendez le public qui
les applaudissements.
Encourage absolument. Un coup l'Italien, un coup l'Espagnol. Trois jeux partout dans la quatrième manche avec ces deux points coup sur coup marqués par l'Italien sur le service de l'Espagnol qui va vendre très cher sa peau ce soir pour défendre ses chances pour essayer de garder le titre qu'il a remporté l'année dernière. C'est un long marathon qui a commencé il y a 3h34 et peut-être qu'à un moment le physique de l'un ou de l'autre va pencher et faire basculer cette rencontre.
Les
3h38
jambes.
De jeu et 2-7-1, toujours pour vous résumer le score, Eric, en faveur de Yannick Sinner, l'Italien.
Et avec les jambes, effectivement, qui vont commencer à devenir lourdes. Et si Yannick Sinner devait remporter son premier Roland-Garros ce soir, il deviendrait le premier Italien à s'imposer Porte d'Auteuil à Paris depuis la victoire en 1976 d'Adriano Panatta. Merci Guillaume Batin, en direct de Roland-Garros. À la une également ce soir, Israël, qui n'a pas l'intention de laisser accoster le navire humanitaire parti de Sicile le 1er juin. Le bateau s'approche ce soir de l'enclave palestinienne. Parmi les militants à bord, il y a l'activiste écologiste suédoise Greta Thunberg et l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. Les deux veulent briser le blocus israélien. Bonsoir Michel Paul.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Vous êtes en direct de Jérusalem, RFI pour France Inter. Le gouvernement israélien a donc demandé au navire de faire demi-tour. Il a aussi donné des instructions à l'armée israélienne afin de dissuader le bateau de s'approcher de la bande de Gaza.
Oui, le Madlin est toujours au large des côtes égyptiennes, mais le ton monte côté israélien. Sur son compte Telegram, le ministre de la Défense, Israël Katz, indique qu'il a ordonné à l'armée d'empêcher l'arrivée du navire humanitaire. Il s'adresse directement à l'écologiste suédoise Greta Thunberg, qu'il qualifie au passage d'antisémite. « Faites demi-tour, car vous n'arriverez pas à Gaza. Israël ne permettra à personne de forcer le blocus de Gaza », dit encore Israël Katz. Le but de ce blocus, pour le ministre, est d'empêcher le transfert d'armes au Hamas. « Nous sommes 12 civils non armés », réplique de son côté l'eurodéputé Rima Hassan. « Nous resterons mobilisés jusqu'au bout », ajoute-t-elle, « jusqu'à ce qu'Israël coupe Internet et les réseaux ». Et précisément, d'après son équipage, le bateau a subi aujourd'hui un brouillage de son système de géolocation. Le scénario le plus probable est que le voilier qui transporte une cargaison humanitaire symbolique soit remorqué jusqu'au port d'Ashdod, au nord de l'enclave palestinienne, et que ses passagers soient ensuite placés dans le premier avion à destination de l'Europe. Petit problème, Greta Thunberg ne prend plus l'avion depuis 2015 pour soigner son empreinte carbone.
Michel Paul, en direct de Jérusalem. C'est donc le constructeur automobile Renault qui va produire des drones sur le sol ukrainien. Information de nos confrères de France Info. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, avait déjà annoncé ce projet vendredi soir, mais sans donner le nom de l'entreprise française concernée. C'est donc Renault qui va s'associer à une PME française spécialisée dans la défense pour produire ces drones à quelques dizaines ou centaines de kilomètres du front. Une initiative qui arrive bien tard, et peut-être même trop tard, regrette l'historien militaire Cédric Mas.
Renault, historiquement, c'est un des premiers fabricants des chars à tourelles. L'activité militaire du groupe n'a jamais cessé. C'est une première, mais on est en 2025. L'invasion a eu lieu en 2024, la première 2022. La première invasion a eu lieu en 2014. Donc on réagit toujours trop tard. Combien de milliers de morts auraient pu être évités si on avait livré des Mirages, si on avait livré des F-16, si on avait livré les munitions, sans les limites d'action, de rayon d'action qu'on imposait aux Ukrainiens dès le début. Donc voilà, donc on est toujours trop tard. Donc c'est toujours bien, c'est toujours mieux que rien, mais c'est quand même beaucoup trop tard.
L'historien militaire Cédric Mas. En Californie, les autorités dénoncent une décision incendiaire prise par Donald Trump. Le président américain a envoyé 2000 membres de la garde nationale contre les manifestants qui défilent depuis deux jours à Los Angeles. Ils protestent contre la politique d'arrestation massive et d'expulsion d'immigrés illégaux. Écoutez le témoignage de cette manifestante à Los Angeles. Elle refuse de donner son nom. Elle se présente comme une enfant d'immigrés et malgré l'envoi de la garde nationale américaine, elle se dit déterminée à poursuivre la lutte.
Ce gouvernement ne nous écoute pas, personne ne nous écoute, personne. C'est donc à nous de prendre la défense de notre peuple. Cela peut sembler mauvais pour tout le monde, mais pour nous, c'est le seul moyen d'être entendu. Il n'y a que de cette façon que le gouvernement entendra parler de nous. Que nous soyons blessés, qu'ils nous gazent, qu'ils nous lancent n'importe quoi, ils ne nous arrêteront jamais. Tout ce qu'il nous reste, c'est notre voix.
Voilà pour ce témoignage d'une manifestante opposée à ce déploiement assez rare aux États-Unis de la garde nationale à la demande de Donald Trump contre l'avis du gouvernement démocrate de Californie.
France Inter, Éric Delvaux.
À Nice, c'est la photo diplomatique du jour. 130 chefs d'État et de gouvernement commencent à arriver près de la promenade des Anglais pour la conférence des Nations Unies sur les océans. Comment les protéger tout en exploitant leurs ressources? C'est la délicate équation que cette conférence devra résoudre jusqu'à vendredi prochain. Le président français Emmanuel Macron est arrivé à Nice par bateau en provenance du forum de Monaco consacré à l'économie bleue. Les Américains se sont contentés d'envoyer un second couteau. La photo diplomatique à Nice avec notre envoyé spécial Julien Nenni.
C'est une sorte de petite assemblée générale de l'ONU qui se réunit à partir de ce soir, non pas au siège des Nations Unies donc, mais dans un hôtel de luxe sur la promenade des Anglais. Dans une heure, Emmanuel Macron y tient le dîner d'ouverture de ce sommet avec autour de la table 63 chefs d'État et de gouvernement, dont par exemple le président argentin Javier Milei, présent aussi Ursula von der Leyen ou encore le vice-président chinois. En revanche, aucune trace des États-Unis, premier espace maritime mondial, ni Donald Trump, ni aucun membre du gouvernement américain n'ont fait le déplacement à Nice. L'Elysée espérait pourtant jusqu'à la dernière minute inverser la tendance. C'est raté donc, de quoi agacer Emmanuel Macron un peu plus tôt dans la journée.
Ça fait quelques mois qu'on entend dire qu'au fond, le changement climatique, la question des océans, tout ça, ce serait une affaire d'opinion. En fait, on pourrait s'en passer. Et d'ailleurs, je constate même que certains coupent les financements pour poursuivre la recherche en la matière. Je vais vous dire non, on n'a pas le droit de faire ça. Parce que ça n'est pas une opinion, mais c'est scientifiquement établi.
Le président ne cite jamais directement les États-Unis, vous l'entendez, mais chacun a compris l'allusion. Le ton est sec, d'autant qu'il y a quelques semaines, Donald Trump signait un décret pour autoriser l'exploitation minière des grands fonds marins, exactement ce que tous les participants espèrent interdire à l'occasion de ce sommet.
Et Emmanuel Macron juge ce soir à Nice que remettre en cause la priorité donnée au climat serait une énorme erreur. C'était Julien Nenni, envoyé spécial de France Inter à Nice. Et bonsoir François Houllier.
Bonsoir.
Vous êtes le président directeur général de l'IFREMER, l'Institut français de recherche entièrement dédié à la connaissance de l'océan. Vous êtes arrivé il y a quelques heures à Nice et vous faites partie des scientifiques avec l'IFREMER et les scientifiques du One Ocean Science Congress qui ont proposé 10 groupes de recommandations pour préserver les océans. 16 pages transmises aux chefs d'État qui participent à Nice à cette convention de l'ONU sur les océans. Vos recommandations concernent à la fois la pollution plastique marine, la surpêche, la pêche illégale, la décarbonation du transport maritime et la réduction des émissions de CO2 qui réchauffent et acidifient les océans. Parmi tous ces dossiers chauds, François Houllier, quel est celui qui vous paraît prioritaire? Est-ce qu'on prend les choses dans cet ordre?
Ah bah écoutez, on était effectivement plus de 2000 scientifiques d'une centaine de pays, 110 ou 112 pays qui étaient présents et on a travaillé pendant 3 jours et demi la semaine dernière. Enfin, cette semaine plutôt. Et puis, on a produit ces recommandations donc sur une dizaine de thèmes, comme vous l'évoquez. Alors, c'est difficile de hiérarchiser ces thèmes, mais c'est sûr que la question des grands fonds marins et de leur protection est une question qui est importante. C'est typiquement un des domaines dans lesquels on considère que la connaissance n'est pas assez avancée et les risques sont suffisamment grands pour qu'il faille surtout ne pas prendre de décision d'exploitation, qu'il faille... pour l'instant, privilégier totalement la connaissance d'une part et la protection d'autre part. Voilà une des priorités majeures, notamment parce que ces grands fonds marins, eh bien, ils jouent un rôle. D'abord, ils se réchauffent, ce qu'on ne savait pas avant. Et puis, par ailleurs, ils jouent un rôle, y compris dans le grand cycle du carbone, qu'on ne connaît pas encore très bien. Et donc, il ne s'agit pas de déstabiliser ces milieux-là pour en plus des avantages qui ne sont pas aujourd'hui avérés.
Et à propos des fonds marins, la France devrait proposer à Nice de sanctuariser 4% des eaux de l'Hexagone. Le chalutage de fonds n'y sera plus possible. Les ONG disent que ce n'est pas assez. Qu'en pensez-vous?
Je pense qu'il y a là, de toute façon, des marges de progrès qu'il faut pouvoir enclencher. La France a aujourd'hui un peu plus de 30% de zones qui sont protégées, mais plus ou moins, avec des règles qui sont pas toujours complètement strictes. Et donc, il y a effectivement un besoin non plus aujourd'hui tellement d'augmenter au-delà de ces 30%, mais d'améliorer la qualité de la protection qui est apportée aux 30% qui sont déjà, qui font l'objet de protection. Et donc, à ce titre-là, il y a un devoir de protection, effectivement, d'un certain nombre d'habitats. Et d'habitats qui peuvent être plus ou moins profonds. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un effort qui est à faire, mais je crois que ça fait partie des annonces qui sont attendues de la part du gouvernement français dans les 2 jours.
Il nous reste quelques secondes pour évoquer le cas de Donald Trump. Depuis son arrivée, l'IFREMER que vous présidez ne peut plus collaborer avec l'Agence américaine pour l'océan et l'atmosphère. Avec quel impact, déjà, s'il y en a un, sur la recherche océanographique?
Il y avait des Américains qui étaient présents à notre congrès ou à Ocean Science, mais c'était des universitaires, c'était des institutions privées, c'était pas des agents des agences fédérales. Et donc ça, c'est franchement dommage. Nos collègues américains ont été des leaders en océanographie, ils le sont encore. Il y a par exemple cet immense réseau de 4000 flotteurs qui mesurent en continu la température de l'océan.
Et ça, c'était les Américains qui en avaient la charge, je crois.
Alors, les Américains n'en avaient pas la charge exclusive, mais ils représentaient une part importante, plus de 50%. Et donc, nous avons un devoir, nous, de monter en puissance dans ce domaine-là. La France était déjà, d'une certaine manière, à la hauteur, mais il faut sans doute que l'Europe affirme son leadership en la matière, qu'on garantisse que ces données anciennes sont préservées, puis qu'on continue de pouvoir renouveler ces flotteurs. C'est la prise du pouls de l'océan. C'est-à-dire, Argo, c'est le pouls de l'océan qu'on mesure à tout moment. Donc, merci. On a besoin de pérenniser ce dispositif-là dans la longue durée.
Eh bien, merci de ce témoignage. François Houllier, président, directeur général de l'IFREMER, qui participe à partir de ce soir jusqu'à vendredi à cette convention de l'ONU sur l'océan. Il y a eu 2 marches blanches aujourd'hui à la mémoire d'Hichem Mirawi, ce quadragénaire tunisien tué il y a 8 jours par un de ses voisins. La justice parle d'un crime terroriste et raciste. Marche blanche d'abord à Marseille ce matin, elle a réuni 450 personnes et puis cet après-midi à Puget en Argence, dans cette commune où Hichem Mirawi travaillait. 1600 personnes ont tenu à être présentes à Puget-sur-Argence. Un commentaire ce soir, celui de Dominique Sopo, le président de SOS Racisme, s'inquiète du retour des crimes racistes en France.
On ne lutte pas contre le racisme juste parce que c'est désagréable d'entendre des propos racistes. On lutte contre le racisme parce qu'on sait bien que si on laisse les propos advenir, ça finit toujours par des actes et par des crimes de sang. Dans toute parole raciste, il y a toujours la promesse d'un crime. Et malheureusement, cette promesse, elle s'est matérialisée à Puget sur Argent, comme elle s'est matérialisée à la Grand Combe il y a quelques semaines dans la mosquée de cette ville. Vous avez la question du terrorisme d'extrême droite, c'est une question qui depuis plusieurs années inquiète d'ailleurs les services de sécurité ou Interpol, puisqu'on voit bien que à force d'avoir des discours d'excitation, eh bien il y a une structuration aussi de milices, de groupes qui vont se lancer dans des opérations terroristes, qui prétendent aimer la France, mais en fait ces gens ne crient pas l'amour de la France, ils crient la haine des Arabes, ils crient la haine des musulmans, ils crient la haine des immigrés et de leurs enfants. Et donc, ça n'est pas du patriotisme, ça n'est pas de l'amour de la patrie, c'est du racisme.
Le président de SOS Racisme, Dominique Sopo. Ce sera dans l'actualité de demain, le rassemblement des patriotes européens à l'invitation du Rassemblement National, qui convie donc ses alliés des droites nationalistes européennes dans le Loiret pour célébrer l'anniversaire de leur succès aux élections européennes. Les nationalistes européens sont devenus la troisième force politique du Parlement européen. Depuis un an, ils ont aussi remporté différents scrutins nationaux à travers le continent. Le rassemblement de demain sera donc une démonstration de force, à l'image d'ailleurs de leur poids grandissant à l'échelle européenne. La correspondance à Bruxelles de Fabien Cazot.
Le président du groupe des Patriotes, Jordan Bardella, n'en finit plus de triompher depuis les élections européennes de l'an dernier. Il y a un mois encore, il se félicitait de l'influence grandissante de sa famille politique qui pèse désormais, à l'entendre, sur les choix de la Commission européenne.
Les premiers mois du nouveau mandat d'Ursula von der Leyen sont marqués d'une influence sans précédent des forces patriotes et des thèmes que nous avons portés lors de la dernière élection européenne directement sur la politique de l'exécutif.
Lutte contre la réglementation du numérique, contre l'immigration, détricotage du pacte vert. Dans les rangs de la gauche du Parlement européen, Manon Aubry n'a pas de mots assez durs pour condamner le programme des patriotes. C'est peu dire que leur exercice d'autocélébration un an après les dernières élections européennes l'agace au plus haut point.
C'est le sommet de l'Europe fasciste, avec Viktor Orban qui interdit la Pride LGBT au mois de juin, Matteo Salvini qui est un fan de Mussolini. En organisant ce sommet, le Rassemblement National et Jordan Bardella montrent leur vrai visage, celui d'une extrême droite qui, derrière les cravates, est toujours aussi raciste, homophobe. On sera toujours là pour se dresser contre eux.
Un contre-rassemblement en présence de Manon Aubry et d'autres élus de gauche aura d'ailleurs lieu demain à Montargis, à quelques kilomètres seulement de celui des Patriotes.
Fabien Cazot, notre correspondant à Bruxelles. Nous partons maintenant à New York, dans les théâtres de Broadway, car la nuit prochaine, la cérémonie des Tony Awards couronnera les meilleures comédies musicales de l'année, avec un hommage particulier qui sera rendu à un spectacle culte aux États-Unis, alors qu'il est méconnu en France, la comédie musicale Hamilton. Elle fête en ce moment ses 10 ans sans discontinuer. Elle se joue aussi à Londres. Hamilton raconte l'histoire du moins connu des pères fondateurs des États-Unis pendant la Révolution. Et l'auteur, Lin-Manuel Miranda, en a fait un objet pop en l'adaptant à l'Amérique d'aujourd'hui. Julien Baldacchino.
Avec ses inspirations hip-hop et sa troupe issue des minorités américaines, Hamilton s'est hissé il y a 10 ans au sommet de Broadway et n'en est jamais redescendu. Pour Julie Boardman, directrice du musée de Broadway, le spectacle est désormais une pierre angulaire de la comédie musicale américaine.
Ce spectacle a vraiment contribué à transformer Broadway et ça n'arrive qu'une fois tous les 10 ans à peu près. Quand vous prenez l'histoire de Broadway, vous voyez que ça marche quand ce qui est sur scène fait écho à ce qui se passe en Amérique et que ça vous fait regarder le monde un peu différemment en sortant de la salle.
En début d'année, Hamilton a refusé de jouer au Kennedy Center de Washington, désormais administré par Donald Trump. La comédie musicale née sous Obama vante un modèle de société à rebours de celui des années Trump. Elisabeth Vincentelli est critique de théâtre au New York Times.
Hamilton est vraiment né des années Obama. Ce moment dans l'histoire américaine de cette optimisme et de cette envie de donner une parole à des gens qui ne l'ont pas eu pendant des années, des siècles même. Ça met le spectacle un peu en porte-à-faux maintenant. Dans le contexte actuel, c'est un idéalisme presque illusoire.
En plus de la réunion de la distribution originale du spectacle lundi à New York, l'un des interprètes présents à la création reprendra son rôle à la rentrée et les billets s'arrachent déjà.
la cérémonie des Tony Awards la nuit prochaine à New York. Avant de faire un dernier point sur le match de Roland-Garros, la finale homme, un mot de football avec l'équipe de France qui a terminé cet après-midi à la troisième place de la Ligue des Nations. Les Bleus sont imposés dans la petite finale, 2-0 contre l'Allemagne, victoire des Français, malgré une prestation assez brouillonne, mais grâce à un but et une passe décisive de Kylian Mbappé.
Dans les deux matchs, on a énormément d'enseignements, que ce soit positif ou négatif, mais au moins on s'est pas ennuyé. Beaucoup de choses qu'on a fait bien, beaucoup de choses qu'on a fait moins bien. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à analyser des deux matchs qu'on a fait. On voulait réagir après la défaite contre l'Espagne. C'est ce qu'on a fait, on est très content. Contre une équipe d'Allemagne à domicile, on sait que l'Allemagne c'est jamais facile. Mais maintenant je suis content de recommencer à marquer. J'ai marqué deux matchs de suite, mais surtout de gagner, c'est le plus important.
Allez, un dernier point sur la finale homme à Roland-Garros. L'Italien Yannick Sinner, numéro 1 mondial, mène 2-7 à 1. Un troisième set remporté par Carlos Alcaraz. Et dans le quatrième set, c'est Yannick Sinner qui mène 5 jeux à 4. Le temps.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Un beau lundi nous attend.
Oui, en tout cas si vous aimez le soleil, parce qu'il sera bien présent, et ça dès le matin, sur l'ensemble du pays. On aura juste un petit peu plus de nuages de la Bretagne aux Hauts-de-France, sur les Pyrénées ou les Alpes du Sud, mais rien qui ne gâchera cette impression de beau temps, et ça sera le cas toute la journée. Notez qu'on aura encore un Mistral bien présent, avec des rafales à 70 km/h le matin. Il va faiblir un petit peu l'après-midi, et les rafales seront comprises entre 50 et 60 km/h.
Mais beau temps, mais ce sera encore un peu frais le matin.
Hein. Oui, vous le savez, c'est toujours le principe du couvercle sur la casserole. Et on enlève le couvercle, là, la chaleur s'évapore. C'est pareil avec les nuages. Et comme le ciel sera dégagé cette nuit, il fera plus frais. 4 à 8 degrés quand même du centre-Val de Loire aux frontières de l'Est. 9 à 13 degrés ailleurs, 16 à 20 degrés. Ça, c'est près de la Méditerranée. Puis dans l'après-midi, ça va grimper un petit peu. 20 à 24 degrés attendus sur la moitié nord. 25 à 32 pour la moitié sud. Ce sera beaucoup moins chaud près de la Manche avec 17 à 19 degrés.
C'était Céline Dacosta.